Merci d'être avec nous dans le Retour en force sur les ondes de Cool FM 103.5. On va aller maintenant s'entretenir avec Mme Annie Saint-Pierre. Elle est directrice générale pour l'Association des thanatologues du Québec. Bonjour Mme Saint-Pierre, ça va bien?
Oui, ça va. Bonjour à vous. Bonjour à tous vos auditeurs.
Merci. Donc, vous avez sorti un communiqué de presse cette semaine. On le sait, avec la pandémie, un des secteurs qui a été beaucoup chamboulé, étant donné que c'est des rassemblements fort évidents, c'est l'univers du deuil, donc l'univers des funérailles. Quelle est un peu l'étude que vous avez sortie cette semaine?
On se rendait compte sur le terrain, là, quotidiennement dans nos entreprises funéraires, que les familles endeuillées là, sont énormément perturbées par les mesures sanitaires en place, notamment par la restriction de 25 personnes maximum là, pour offrir les condoléances et assister, participer au rituel funéraire. Donc, nous avons mandaté l'Université de Montréal pour mener une étude avec des endeuillés avec des directeurs de funérailles pour mieux comprendre, pour analyser le phénomène qu'on appelle maintenant aujourd'hui le phénomène du deuil reporté, qui est extrêmement préoccupant.
Rappelez-nous un peu quelles sont les mesures présentement, parce que c'est depuis le début de cette pandémie-là, ça fait maintenant un an qu'il y a des consignes très strictes là, au niveau des funérailles.
Oui, en fait, et ce qui est un peu problématique, c'est que nous, on a changé de consigne 4 fois en un an. Pour faire une histoire courte, entre le mois de mars et le mois de septembre, nous travaillions avec le phénomène de distanciation physique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de limite de présence dans les entreprises funéraires à condition qu'on respecte le 2 mètres en fonction de la superficie d'accueil de chacune des entreprises funéraires. Ensuite de ça, on est tombé dans le principe des 50 et des 25 selon les zones. Après ça, on est tombé dans un principe là de 25 personnes tout en ayant la possibilité de tenir 2 ou 3 événements pour permettre à un plus grand nombre de personnes d'assister. Et ensuite, on est tombé sous la consigne de 25 personnes maximum pour un événement. Donc, ça fait 4 fois qu'on change de consigne. Puis, ça devient extrêmement préoccupant et difficile à gérer pour les entreprises funéraires. Écoutez, il y a 3 facteurs à prendre en considération lorsqu'une personne décède. Effectivement, il y a toujours question de la famille et ça, ben c'est comme vous le savez, il y a des grandes familles, il y a des petites familles, mais on oublie souvent qu'il y a des collègues, qu'il y a des amis. Donc, imaginez que de devoir choisir 25 personnes maximum qui vont pouvoir dire au revoir à la personne décédée, c'est très difficile. Et c'est très déchirant pour les familles.
J'imagine que ça doit être effectivement déchirant pour les familles. Ça doit créer même à la limite certains conflits au niveau familial parce qu'il y a des grosses familles. Là.
Oui, effectivement, ce que l'étude révèle, c'est outre le fait que les familles sont forcées et sont perturbées par le fait qu'elles doivent respecter ou inviter seulement 25 personnes aux funérailles, ça crée ce qu'on appelle justement un phénomène de discorde et de division, à savoir qui pourra venir saluer grand-papa ou papa ou leur ami ou leur cousin qui est décédé. Donc, pouvoir être obligé de dire non à la 26e personne, c'est inhumain. Et c'est ce qu'on fait valoir aux autorités de la santé publique et au premier ministre. On a eu l'opportunité, la chance de leur expliquer. Et ce qu'on demande, c'est de revoir ces exigences-là tout en permettant aux familles d'organiser des rituels funéraires sans avoir une restriction, mais en toute sécurité. Vous comprendrez qu'on est très conscient et on est très bien placé pour comprendre les risques de contamination et les effets qu'ont ce virus sur la santé de la population. Mais on pense qu'en tant qu'organisation professionnelle, tous les membres de la Corporation des thanatologues sont en mesure d'organiser et de se structurer des rituels funéraires qui sont encadrés qui se font en toute sécurité.
Qu'est-ce qu'on vous a répondu au niveau de la santé publique et du gouvernement?
Bien, je vous dirais que ce matin, on a de l'espoir. M. Legault et M. Arruda nous ont tous les deux indiqué hier qu'ils étaient d'accord avec nous et qu'ils comptaient revoir ces exigences-là. Donc, je vous dirais là, qu'on est plein d'espoir pour les familles actuellement pour leur permettre de vivre leur deuil. Qu'ils ont droit, hein? C'est un droit de vivre un deuil. Et on sait que les rituels funéraires en font une partie intégrante. Donc, on espère là, que rapidement, les autorités de la santé publique vont revoir ces exigences-là pour soutenir et aider les familles.
Bon, je n'ai pas vécu un deuil durant cette pandémie-là, ni de proche, ni de loin. Oui, c'est une bonne nouvelle, effectivement. Mais pour ceux qui décident de mettre en pause, je compare ça un peu avec un voyage. T'sais, un voyage, on peut mettre ça en pause. On dit, on va aller le faire dans, dans 2 ans quand la pandémie va être terminée. Mais un deuil, on peut pas vraiment mettre ça 2 ans en suspens, là.
Non, et tous les experts en psychologie vous le démontreront qu'un deuil, ça ne se met pas sur pause, ça ne se met pas à off et ça ne se reporte pas. Donc, l'inquiétant phénomène là, du deuil reporté qui se produit au Québec parce que plusieurs familles choisissent de reporter à plus tard l'organisation des rituels funéraires, mais ça fait qu'entre-temps, et je peux vous le confirmer, là, hier, on était justement avec des représentants des proches aidants. Et il y avait des gens qui disaient, écoutez, là, mon mari est actuellement en Flandre, à quelque part dans un endroit que j'ignore et j'attends à plus tard en espérant pouvoir inviter plus de monde et faire une activité, une commémoration à sa mémoire. Mais pendant tout ce temps-là, là, ces personnes-là sont désemparées. Les gens l'expriment. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas comment ça se fait. Puis là, ajoutez au fait que dans plusieurs circonstances, les proches n'ont même pas pu accompagner la personne malade dans ses derniers moments de vie. Alors, pouvons-nous, s'il vous plaît, permettre aux gens de les saluer dans l'entreprise funéraire une fois qu'ils sont décédés?
Tout à fait. On remarque aussi que seulement 33 % des familles sont ouvertes à aller vers une forme de funérailles virtuelles, si on veut, mais on comprend bien que les funérailles virtuelles, c'est pas très populaire là, pour faire son deuil.
Mais je vous dirais que c'est une option qui est possible, qu'on est en mesure d'offrir, mais évidemment, c'est pas toutes les familles qui sont intéressées à cette option-là. Et c'est une forme de baume, c'est une forme d'apaisement. Mais dans notre étude, ce qui est soulevé, c'est que les gens ne peuvent pas voir physiquement la personne décédée. Donc, encore une fois, ça a un effet sur le deuil et c'est ce qu'on appelle un deuil compliqué ou un deuil perturbé, un deuil complexe. Et c'est très préoccupant actuellement au Québec après un an d'avoir autant de phénomènes comme celui-ci.
Si on regarde au niveau administratif, il va en soi que la charge de travail des thanatologues au Québec a augmenté, force est d'admettre, durant la pandémie. Non?
Oui, outre le fait organisationnel, là, disons, là, en matière d'approvisionnement d'équipements de protection individuelle, parce que nous, dans les entreprises funéraires, bien qu'on nous impose des protocoles et des équipements, on ne nous a pas fourni les masques, exemple, les masques N93. Donc, on a dû s'organiser de nos propres moyens pour avoir des approvisionnements et du matériel. Et ensuite de ça, bien, la recherche dit qu'en termes d'organisation, la charge de travail est accrue parce qu'il y a tout le phénomène de distanciation physique qu'on doit gérer. Donc, oui, c'est difficile pendant les funérailles. Quelqu'un qui a de la peine et qui pleure, c'est difficile de ne pas avoir de ne pas succomber à la tentation d'aller la serrer dans nos bras. Hein. C'est un instinct hein, partout.
Eh oui.
Mais je crois qu'après un an, les Québécois savent ce qu'ils ont à faire. On est capable de suggérer, on le fait depuis un an, de mettre une main sur le cœur, de faire une initiation d'accolade, d'avoir un regard franc dans les yeux et de dire aux gens à quel point on les aime et à quel point c'est important pour eux d'offrir des condoléances. Je pense que c'est toutes des mesures qu'on est capable d'assurer.
Donc, le gouvernement vous dit qu'ils ne vous ont pas épaulé dans le début de la pandémie, mais j'imagine qu'ils vous ont consulté aussi lorsque cette pandémie-là est arrivée, veut pas, parce qu'on sentait que l'augmentation des morts pouvait augmenter au Québec, et ce fut le cas d'ailleurs.
Oui, en fait, on a participé, on a été consulté là, de nombreuses reprises là, depuis le mois de mars dernier à ce sujet-là. Nos pourparlers sont continus avec la santé publique et le ministère de la Santé. D'ailleurs, je dois vous dire c'est pas nouveau pour nous. Je veux dire, on est habitué et familier de travailler avec des maladies infectieuses. On a déjà des protocoles qui sont établis avec la santé publique. Écoutez, on en a vu d'autres, là. C'est pas la première fois. Donc, je pense qu'on est capable de travailler en toute sécurité avec les familles. À l'égard de ce virus-là. Il faut toujours avoir une pensée que oui, il y a des gens qui sont décédés de la COVID au cours de la dernière année, mais il y en a encore plus qui sont décédés de toute autre cause de décès. Et c'est tout le monde qui est affecté par les mesures sanitaires.
On parle de 74 000 environ familles endeuillées là, depuis le début de la pandémie au Québec.
Oui.
Donc, merci beaucoup, Mme Saint-Pierre. Très gentil d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui. Et on espère que le gouvernement réponde de façon positive à votre demande aujourd'hui.
Au revoir à vous.
Merci, c'était Mme Annie Saint-Pierre, directrice générale de l'Association des thanatologues du Québec. On s'arrête.